parler de la Trinité dans la perspective de la communion. Donc, c'est comment vivre la communion dans la lumière du mystère de la Trinité, ou même dans la Trinité, et ça, en essayant d'être concret. Là, je vous préviens tout de suite, pour le concret, j'ai une antisèche, j'ai le pape François. J'ai oublié pas le pape Benoît, et j'ai Jean-Paul II. Alors, avec ça... Alors, je vais partir d'une réflexion un peu générale sur la question de l'amour, parce que la question de la communion, c'est évidemment inséparable de la question de l'amour. Moi, j'ai appris quelque chose en lisant Dieu est amour du pape Benoît XVI. J'ai appris qu'il y avait deux formes dans l'amour. L'amour passion, qui recherche l'union, comme on peut le voir dans le mariage. Et puis l'amour service, qui veut et qui travaille au bien de l'autre. Et à ma grande surprise, le pape Benoît XVI a mis en évidence que la forme première de l'amour, c'est l'amour passion. En fait, si on allait dans la rue et qu'on demandait aux personnes qu'est-ce que c'est l'amour pour vous, ils penseraient tout de suite à l'image du couple. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi c'est fondamental l'amour passion? L'amour passion, c'est l'amour qui recherche l'union, donc la communion. On est dans le sujet. Pourquoi c'est la première forme de l'amour véritable? Mais parce que en Dieu lui-même, il y a cette passion. Dieu lui-même est un mystère de communion, mais pas une communion statique. Dieu lui-même, dans sa vie intime, c'est une vie amoureuse. Le Père aime passionnément le Fils, et le Fils aime passionnément le Père. Et c'est un échange d'amour passionné, continuel. Et c'est la vie de Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre d'une vraie vie, si ce n'est en entrant dans cette vie de Dieu. Oui, Dieu est amour d'abord parce qu'il est un mystère de communion et pas d'abord parce qu'il serait un Dieu généreux qui ferait beaucoup de choses pour ses enfants. C'est pas un grand monarque bienveillant en Dieu. C'est un passionné. Alors, si la joie de Dieu, elle est dans ce mouvement d'union continuelle, la joie entre le Père et le Fils, dans l'Esprit Saint, l'amour humain lui-même, l'amour qui est dans notre cœur, recherche la joie dans l'union. L'amour trouve son achèvement dans l'union. Et l'amour qui recherche le bien de l'autre ne peut être bien vécu qu'à l'intérieur d'une recherche de communion. En fait, il faut toujours vivre les deux formes à la fois. Rechercher l'union avec les autres. Alors la communion, autant que c'est possible, je précise. Et en même temps, rechercher le bien des autres. Ici, je pense tout de suite à une petite remarque que le pape Benoît XVI a faite dans d'une rencontre avec des supérieurs d'ordre religieux. Quand il y a des religieux ici, il leur dit, il leur cite un jésuite qui est Saint Jean Bertrand, qui est un jésuite belge, qui a été canonisé, et il cite ce jésuite disant que pour lui la plus grande pénitence était la vie communautaire. Vous voyez, c'est pas mal comme introduction. Alors, je ne vais pas vous conter des histoires sur la communion, tout est bien, tout est beau, la vie entre nous, qu'est-ce que c'est joyeux. Non, la communion est difficile. C'est ce qu'il y a de plus beau à vivre sur terre, mais c'est difficile. Alors il dit, comme c'est une grande pénitence, la vie communautaire chez les religieux, il dit, il est parfois difficile de vivre la fraternité. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si on ne la vit pas, on n'est pas fécond. Ouais, ça, c'est du direct par François. Si on ne vit pas la fraternité, on n'est pas fécond. On ne porte pas de fruits. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas vraiment faire du bien aux autres si on ne vit pas d'abord la fraternité. Le travail, même apostolique, peut devenir une fuite de la vie fraternelle, ça on sait bien entre prêtres. Comment on peut fuir les moments de rencontre un peu gratuites, parce que la différence de l'autre, disons-le tout de suite, la différence de l'autre, ça fait mal. Sans parler de tous les malentendus et les incompréhensions qu'il peut y avoir dans une équipe de prêtres qui ne se sont pas choisis. Et dans la vie religieuse non plus, on ne se choisit pas. Et dans le mariage, quand on se choisit, ce n'est pas pour autant. Donc en fait, la fuite dans le faire, elle est fréquente, elle est partout. Pensez à tous ces hommes qui retardent toujours plus le retour au foyer, parce qu'ils ont du mal à trouver leur place, qui préfèrent fuir dans le travail. Le travail même apostolique peut devenir une fuite de la vie fraternelle. Si une personne ne réussit pas à vivre la fraternité, elle ne peut pas vivre la vie religieuse, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je dois reconnaître, moi quand j'étais jeune prêtre, la question de la fraternité sacerdotale, tout ça, j'avais pas intégré. C'est pas que je ne priais pas pour mes confrères, mais je faisais mon apostolat de mon côté, et puis eux du leur, et je ne voyais pas ce lien entre mon apostolat et la communion fraternelle. Et ça n'a pas été simplement en lisant le pape que je l'ai compris, mais par l'expérience de la vie. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans cet amour passionné qui recherche la communion? Ce qui est en jeu, en fait, c'est la véritable sortie de soi. Ici, j'utilise une expression chère au pape François, sortir de soi-même. En fait, je sors de moi-même parce que je me tourne vers un autre que moi-même, précisément. Je recherche l'union parce que je cherche la joie dans un autre que moi-même. C'est ça qu'il y a de beau dans l'amour, l'amour-passion, dans le fait de vivre une extase amoureuse. C'est ce sentiment de enfin pouvoir sortir un peu de soi. Évidemment, cette sortie de soi, elle est loin d'être toujours réalisée dans la passion humaine. Il peut y avoir un fond d'égoïsme derrière de grands élans amoureux, on le sait bien. Et puis aussi, il peut y avoir beaucoup d'illusions. Moi, j'accompagne à Paris, je fais un peu de publicité, j'accompagne un groupe qui se réunit à la Trinité de parents seuls. que tous les mois, il y a plusieurs dizaines de personnes divorcées qui se retrouvent. Il y a un enseignement, il y a un temps de partage, il y a un temps d'adoration, puis il y a un buffet. C'est très convivial. Ça fait 9 ans, donc j'ai reçu beaucoup de confidences. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit qu'en fait, quand elles se sont mariées, elles ne connaissaient pas vraiment l'autre. Non seulement elles ne le connaissaient pas, mais elles n'étaient pas dans une vraie recherche de le connaître. Parce que ce qu'elles recherchaient, c'était de faire un beau couple chrétien. Mais la sortie de soi vers l'autre n'était pas réalisée, pas vécue. Je ne sais pas si vous voyez le piège. Une personne qui rentrerait dans la vie religieuse en disant « Moi, je veux réaliser mon idéal de vie religieuse. » Elle peut toute sa vie être à la poursuite de son idéal de vie religieuse, être religieuse comme il faut. Mais les autres, l'ouverture aux autres, l'ouverture du cœur réel aux autres, la recherche d'une meilleure connaissance des autres, d'être plus proche des autres, ça peut passer à l'as. Et en fait, en recherchant un idéal, au lieu de s'ouvrir à l'autre qui existe réellement, en poursuivant un idéal, c'est soi-même qu'on poursuit. Et donc, en fait, on reste enfermé en soi. Qui nous délivrera de nous-mêmes ? Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est la communion ? La communion achevée, celle vers laquelle nous devons tendre toujours. Si j'aime l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Si je l'aime vraiment, en m'ouvrant à lui, en sortant de moi-même, pour me tourner vers lui. Qu'est-ce qui se passe si j'aime l'autre ? Qu'est-ce que fait l'amour ? La première chose que fait l'amour, c'est que je peux accueillir l'autre dans mon cœur. Nos frères orthodoxes sont très conscients du fait que le cœur, c'est le vrai lieu de la rencontre, c'est le vrai lieu de l'union. Quand j'aime l'autre, je peux donner hospitalité à l'autre dans mon cœur. D'ailleurs, dans le langage chrétien habituel, quand on veut dire à quelqu'un qu'on aime, on est d'un amour, pas d'un amour affectif, mais d'un amour chrétien, j'ai envie de dire, on va lui dire « je te porte dans mon cœur ». De fait, c'est ce qui se passe. Et nous savons bien que porter vraiment quelqu'un dans son cœur, ça ne se fait pas comme quelque chose de naturel. Ça demande une réelle sortie de soi. Mais c'est important qu'il y ait la communion. Je peux porter dans mon cœur, je ne sais pas moi, le musulman qui me tirait sur les juifs à Bruxelles. Pas pour autant je me sens en communion avec lui. Je le porte dans la prière dans mon cœur, je vais le porter douloureusement. À quel moment la communion se réalise ? Ben, quand il y a une réciprocité, je l'aime en l'accueillant, en lui donnant hospitalité dans mon cœur, mais je me sens en communion comme moi-même, je peux demeurer dans son cœur. Et trouver de la joie à être en sa présence et à me sentir proche de lui. Il demeure en moi et moi je demeure en lui. Et à son contact, je trouve de la joie. Je lui fais partager, il peut partager ma vie. Disons, si je l'accueille dans mon cœur, je peux lui communiquer la paix qui est en moi. Et si il m'accueille dans son cœur et que moi je peux trouver refuge dans son cœur, eh bien je vais goûter la paix qui est en lui. Il y a un échange des dons, un échange de vie. Ici, nous pouvons nous appuyer sur les paroles du Christ dans Saint Jean, chapitre 17. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'inhabitation des personnes divines. Le Père demeure dans le Fils demeure dans le Père. Comme toi tu demeures en moi et moi en toi, qu'ils soient un. La communion des cœurs, le cœur à cœur. L'échange qui se fait et qui est une ressemblance avec l'échange éternel qui se vit entre le Père et le Fils. Et nous voyons que cet échange qui fait que je donne l'hospitalité à l'autre et je lui partage d'abord les richesses de mon cœur, et que l'autre me donne hospitalité dans son cœur et que je partage les richesses de son cœur, elle aboutit nécessairement à une communion concrète que nous trouvons dans les actes des apôtres. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Entre eux, tout était commun parce qu'il y avait la communion des cœurs. Vous imaginez une paroisse comme ça? Où il y aurait ce cœur à cœur qui serait vécu comme naturellement, sans toutes ces peurs de l'autre, ces peurs de la différence de l'autre, ces peurs d'une vraie rencontre avec l'autre. Ces fuites dans le travail. Accueillez-vous les uns les autres, dit saint Paul, comme le Christ vous a accueillis. Voyez, ça c'est la première forme de l'amour. Accueillez-vous les uns les autres. Il y a communion quand l'accueil est réciproque. Alors, Jésus dit qu'ils soient un comme nous sommes un. Mais il précise moi en eux. Ici, je recherche le comment comment parvenir à la communion? Qu'il soit un en nous, dit aussi Jésus, juste avant. Qu'il soit un en nous. Et là, un en moi. Qu'il soit un, moi, en eux. C'est ce que nous demandons dans la prière eucharistique numéro 3. Que nous fassions un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Alors ici, vous voyez, on pose la question de comment nous pouvons vivre une communion qui soit la ressemblance à la communion des personnes divines dans la Trinité. Et on arrive tout de suite, très vite, au fait que cette communion n'est possible qu'en Dieu lui-même, plus précisément ici dans le Christ. C'est Benoît XVI qui m'a fait comprendre le fond du problème. Pour que nous les hommes, nous parvenions à vivre la communion, nous avons besoin de nous retrouver dans ce que Benoît XVI a appelé une fois un fond commun. Précisément ce qui me manque avec dans l'exemple de ce musulman qui a tué gratuitement, si je puis dire, enfin gratuitement, par pure haine. Ce qui manque, c'est le fond commun. Je ne sens pas de fond commun. Non, je ne connais pas le fond de son cœur, mais malgré tout, il y a des actes qui blessent l'amour et qui donc blessent objectivement la communion. S'il n'y a pas le fond commun, ben on communie comment ? Ben on ne communie pas. Il faut que nous, les humains, nous communions à la même réalité. Parce qu'on est tous faits pour Dieu, pour vivre de Dieu, pour vivre en Dieu. Et la seule vie qu'on puisse partager de cœur à cœur, c'est la vie divine. La seule chose qui puisse faire que je sois vraiment attiré par l'autre et que je sorte de moi-même, c'est que cet autre soit porteur de Dieu, me donne Dieu, soit beau de la beauté de Dieu. Ou que je vois la présence cachée de Jésus. Je peux voir la présence cachée de Jésus. C'est quelqu'un dont le visage est défiguré. Défiguré par la misère humaine, et quelquefois même, disons aussi, défiguré par toutes sortes de maladies psychiques, de pauvreté. Mais il y a quelque chose qui m'attire en lui. C'est quelque chose qui m'attire en lui, même si j'en ai pas conscience en fait, c'est la présence de Jésus. C'est pour ça que je disais, il n'y a que Dieu qui peut nous faire sortir de nous-mêmes. Parce qu'il n'y a que Dieu qu'on puisse aimer en fait de tout son cœur, passionnément, jusqu'à l'adoration. Et en fait, on peut sortir de soi vers les autres qu'en se laissant d'abord attirer et toucher par Dieu. À un moment, on fait cette expérience-là dans l'adoration eucharistique. Quand on se laisse vraiment toucher par la présence vivante et aimante du Christ dans l'Eucharistie, de fait, on se retrouve uni en lui. Parce qu'on s'est laissé toucher par lui d'abord. Pour ça aussi que la prière, comme dit Benoît XVI, ne fait pas simplement que de nous unir à Dieu, mais elle nous unit les uns aux autres. Et on voit bien comment dans la vie de famille, la prière familiale et peut devenir le lieu où, au-delà des grandes diversités de différences de caractère qui font souffrir les uns des autres, parce que c'est la différence qui fait souffrir, eh bien, on se retrouve dans une profondeur plus grande, qui est précisément la profondeur de la présence de Dieu en chacun. La présence divine, c'est ce fond commun. La présence de Christ dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos cœurs, c'est ça qui fait l'unité. Jésus dit qu'ils soient un, moi en eux. Et il rajoute, et toi en moi. Moi en eux, mais on ne peut pas avoir Jésus sans le Père. Il n'y a pas de Jésus sans le Père. Parce que Jésus, il est pure relation au Père, il est pure ouverture au Père. Moi en eux et toi en moi. On accueille Jésus dans notre cœur, on le cherche, on cherche sa présence, aussi dans nos frères. Et cette présence de Jésus, elle est la présence du Fils bien-aimé du Père. Et donc, accueillir Jésus, c'est l'accueillir dans sa vie extatique, tournée vers le Père, qui est une vie d'obéissance. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur et Seigneur qui entrent dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père, de Jésus. Quand on est fils, l'amour a un nom, l'obéissance. L'amour s'appelle obéissance. Je fais toujours ce qui plaît au Père, dit Jésus. Et donc ici, nous pouvons comprendre intuitivement que le fond commun dans lequel nous sommes appelés à nous rencontrer dans la lumière et dans une vraie extase, une vraie sortie vers l'autre, eh bien c'est l'obéissance. C'est aussi l'obéissance à la volonté de Dieu. Qui est mon frère, ma sœur, ma mère, ce qui fait la volonté du Père? On se retrouve frère, on se retrouve de la famille de Jésus en faisant la volonté du Père. Ça fait comprendre aussi qu'on ne peut pas être en communion avec quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on tue des humains. Ça fait comprendre aussi que le plus grand obstacle à la communion, c'est le péché. Il ne faut pas chercher, il n'y en a qu'un en réalité, obstacle à la communion, c'est le péché. Parce que le péché, c'est précisément la désobéissance. Alors là, on atterrit. Hein. Parce qu'on se rend compte que dans notre vie concrète, on peut chercher à vivre des états d'harmonie, on peut chercher le consensus, on peut faire preuve d'une très grande diplomatie, en oubliant qu'il n'y a qu'un seul véritable obstacle à la communion, et c'est le péché. C'est-à-dire en oubliant de se convertir. Pensez à une communauté, une famille, et à quelqu'un qui sait très bien se mettre un peu tout le monde dans la poche, qui est un peu séducteur, très diplomate, très relationship, et puis qui connaît très bien la communication violente, pas de problème. Comme mais qui est plein d'orgueil. Ça donne quoi? Ça donne qu'autour de lui, apparemment, tout daigne, il fait des liens, tout s'harmonise. Puis vous voyez avec le temps que vous verrez que c'est la division, la profonde division. Parce qu'il y a un venin qui, de l'intérieur, détruit profondément toute possibilité de communion et qui s'appelle l'orgueil, qui en plus est contagieux. Je prends un autre type de péché qui peut ne pas faire de bruit, mais qui range de l'intérieur la communion, ce serait un esprit d'impureté, un esprit de possession. Imaginez que dans une famille, il y a une relation incestueuse. Je dis même pas qu'il y a un acte jusqu'à l'acte, mais il y a des regards incestueux, un esprit incestueux. De l'intérieur, ça fait exploser la famille. C'est un péché grave. Les péchés les plus graves sont souvent les péchés les plus cachés. Donc extérieurement, tout peut sembler. Qu'est-ce qu'il a beaucoup d'affection, ce papa, pour sa petite fille? C'est ça, vous voyez? Puis personne ne voit rien, parce qu'on juge sur les apparences. Puis tout semble aller bien. Le pape Jean-Paul II a écrit une exhortation apostolique qui appelle Réconciliation et pénitence. Il dit au début que, évidemment, dans le monde, il y a bien des efforts pour essayer de réconcilier, de faire l'unité et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique à l'action de l'Église? C'est qu'elle travaille à la réconciliation en luttant contre le péché, en faisant pénitence précisément. Qu'on n'arrivera pas à résoudre les conflits entre nous chrétiens, les conflits familiaux, les conflits paroissiaux, les conflits religieux, en dehors d'un esprit de pénitence. En fait, le père Bernard-Marie m'a demandé, est-ce que tu dois leur parler de la communion, de la Trinité et de la croix? Mais en fait, quel est l'amour qui peut porter des situations de conflit et être vraiment artisan de paix, travailler à la paix de l'intérieur, réunissant les hommes dans une commune obéissance à la volonté de Dieu, à la volonté du Père, si ce n'est l'amour qui est dans le cœur de Jésus. C'est-à-dire l'amour avec lequel il nous a aimés sur la croix. Rappelez-vous Saint Jean. Christ est mort pour rassembler. Il est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. La réconciliation des hommes entre eux s'est faite, s'est opérée par la croix, et dans notre vie, il n'y aura jamais de communion réalisée sans passer par la croix, ça c'est sûr. Mais la première, la croix, c'est d'abord l'obéissance à la volonté de Dieu. Première croix, c'est tout simplement d'être bien à sa place, de rester dans l'obéissance à la volonté de Dieu. pour ça que je voyais cet homme qui est un peu ivre, mais qui est sûrement habité par Jésus, très fort même. Moi, j'aurais été tout heureux de lui parler à part, de le prendre à part et de le rencontrer, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je continue l'enseignement. Donc si je l'avais fait, ben, ça n'aurait pas pu s'opérer. J'aurais été hors obéissance. Oui, on peut faire des actions pour les autres, pour être proche des autres, tout ça. Si ce n'est pas dans l'obéissance, ça c'est quelque chose qui met du temps à comprendre. Ça veut dire aussi, vous voyez, dans une paroisse, si quelqu'un vous pose, vous demande quelque chose, vous rencontrez pour parler, posez-vous la question, est-ce que c'est à moi de répondre à ces questions? Est-ce que je suis la personne qui doit le faire? Est-ce que c'est ma place? Et souvent, les gens s'adressent, veulent rentrer dans une relation, mais pas avec la bonne personne. Et souvent, ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont à partager, ben par exemple, il faudrait qu'elles le partagent avec le curé. C'est celui qui est concerné. Mais elles ont peur, elles ne veulent pas le rencontrer lui, et puis elles vont parler avec un autre, là elles vont essayer de s'entendre avec un autre, dire, sur le dos du curé, entre guillemets. Non, mais je caricature. Mais même, le fait de parler, il faut savoir avec qui on parle, à quel moment on parle, qu'est-ce qu'on fait dans ce travail de relation. En réalité, si on veut qu'il y ait que la communion, il faut que chacun soit bien à sa place. Ça veut dire aussi avoir le courage de dire non quelquefois. Non, écoute, je ne peux pas t'aider là-dessus. Tu devrais me parler là-dessus, mais c'est quelqu'un d'autre que tu dois parler. La communion dans l'Église, elle est ordonnée. Elle est hiérarchisée. Elle est soumise à un principe d'obéissance. Il y a des pasteurs, il y a une autorité, il y a quelqu'un à qui on doit dire telle chose, il y a des références. Je pense à un personnel soignant d'hôpital, il y a l'infirmier référent, il y a des choses, tout doit se faire dans l'ordre. Et c'est ici que le pape Benoît XVI a rendu service à l'Église, en disant que le minimum de la charité, c'est la charité qui nous unit les uns aux autres, le minimum de la charité, c'est la justice. On pourrait dire aussi bien, le minimum de la communion, c'est la justice. Enfin, le chemin, le chemin minimal, le premier chemin de la communion, c'est la justice. Tiens-toi à ta besogne. Que chacun se mêle de ses affaires, de sa peur. Restez bien fidèle à son devoir d'État d'abord. À un moment, il a couru le bruit que le pape François se levait la nuit, il allait aller voir des SDF la nuit. Il a démenti ça en disant « Je suis un homme normal, mais de toute façon, s'il avait fait ça, il aurait été hors cadre. » Ne peut pas se permettre, c'est pas juste, qu'ils se prennent le risque de se fatiguer à l'extrême pour aller rencontrer des SDF la nuit. Ah oui, mais c'est beau, ça aurait été beau. Moi-même, sur le moment, je me dis, oh, c'est extraordinaire, un pape qui sort la nuit pour aller voir des SDF. Non, ça c'est du romantisme, c'est de l'affectif. D'abord, qu'est-ce qui est juste? Mon devoir d'État. Oui, là, il y aurait beaucoup à dire, hein, parce que souvent, on fonctionne à l'affectif, avec des beaux sentiments, des belles intentions. Et puis, on s'étonne que ça n'aboutisse pas à une vraie communion. On a raté la première marche, l'obéissance à la volonté de Dieu, le renoncement à ma volonté propre. Derrière l'obéissance à la volonté de Dieu, il y a un sacrifice qui se cache. Qui est le sacrifice de ma volonté propre. Et comment je pourrais sortir de moi-même pour aller vers l'autre en restant enfermé dans ma volonté propre, dites-moi, réfléchissez. Comment je pourrais vivre une vraie extase, une vraie ouverture de cœur en étant dans ma volonté propre? Nous avons un pape qui est un modèle de communion, mais une communion effective, pas simplement affective, mais effective. Et dans la vie la plus concrète. Et une fois, il a dit que sa première occupation, la première chose qu'il fait, enfin son premier travail, l'essentiel de son travail, c'est prier et discerner. La prière, de fait, est une extraordinaire force unitive, force pour nous retrouver en Dieu, pour avancer dans la communion, mais le discernement. Et pas à Jésus pour rien non plus, mais à énormément travailler le discernement. Ça veut dire à tout instant coller à la volonté divine. C'est comme ça qu'on est dans le Christ, qu'il soit un en moi. Jésus n'est que obéissance. Sinon, vous voyez, on se fait nos plans. Je vais lui parler de ça, je vais lui dire ceci, ça va lui faire plaisir, on va s'entendre, on va parler de ça, certainement, on a des points communs, qu'est-ce que... Voilà, et puis lui, il a fait la même école que moi, on va se retrouver. Non, il faut arrêter les gamineries. Qu'il soit un en moi, dit Jésus. Pas dans un amour humain, affectivo quoi. Affectivo mou, quoi, peut-être, plein d'attachements, de petites préférences, qui restent au niveau d'un petit cœur humain qui, en réalité, est incapable de s'ouvrir réellement à l'autre. Bien ce que je te dis là est un peu dur, mais... Moi, je vois bien, je suis de la communauté de l'Emmanuel, je vois bien quand on peut dans une communauté, partir dans l'affectif, ou alors rester vraiment devant Dieu, en Dieu. J'ai envie de dire que c'est l'adoration qui nous sauve. Et l'adoration vécue dans le concret, ça s'appelle obéissance. Alors, le Père Bernard-Marie me demande de vous parler de la croix. La croix, donc, je dis, c'est d'abord le renoncement de notre volonté propre dans l'obéissance de notre devoir d'État, de notre place propre dans le corps de l'Église. Mais il y a un autre aspect qu'on peut développer, c'est si je porte l'autre, parce que la communion, la première chose, c'est moi, de mon côté, ouvrir mon cœur à l'autre. Je peux ouvrir mon cœur à l'autre, à quelqu'un qui tue. Ce n'est pas un problème. Ouvrir mon cœur à l'autre, au pire des criminels. Mais qu'est-ce que ça donne? Quand on ouvre son cœur à quelqu'un qui fait le mal, qu'est-ce que ça donne? Ben, il suffit de regarder Jésus en croix. Il nous a accueillis jusqu'au bout, en étant lui dans l'obéissance au Père. Qu'est-ce qui fait souffrir? C'est la différence. La différence entre un cœur tourné vers Dieu, un cœur obéissant à Dieu, et puis la personne qu'on accueille qui, elle, pêche gravement contre l'amour. Ou s'est détourné de l'amour, ou comme dit Benoît XVI, a piétiné l'amour dans son cœur. Et si moi je l'accueille, d'abord je n'ai pas envie de l'accueillir. Une réaction première, elle est de se fermer, on ne veut pas. On ne veut pas même en entendre parler, on ne veut pas le voir. On ne peut pas le voir, comme on dit. Je ne peux pas le voir. C'est ce qu'on dit quand on dit ça. On dit, il me fait trop souffrir. C'est qu'on n'arrive pas à porter l'autre jusqu'au bout. C'est les limites de notre cœur. Être un dans le Christ, c'est porter les autres, pas avec notre petit amour humain, mais avec la charité du Christ, précisément. Qu'il soit un en nous, en moi, dans mon cœur à moi, avec ma charité en moi, pour qu'ils puissent se supporter les uns les autres, se porter les uns les autres. Supporter le fardeau, porter le fardeau les uns des autres. Ben, je trouve que ce qu'il y a de plus lourd, c'est de porter des personnes qui ont sans l'esprit d'orgueil. Et c'est sûrement ce qui a fait le plus souffrir Jésus, les pharisiens. On ne peut pas juger de l'orgueil de quelqu'un, mais on peut par contre ressentir un immense mal-être. Et ça, il faut pas penser que ce soit contraire à la charité. Précisément, si on commence à souffrir, c'est qu'on commence à ouvrir son cœur à l'autre, à le porter réellement. Sinon, on est dans les nuages, hein, on peut toujours idéaliser les personnes, il y a tout le monde est beau et tout le monde est gentil, oui, mais c'est pas comme ça que Jésus nous a aimés. Plus on voit, plus on souffre, plus on voit les autres en vérité dans la lumière de Dieu, dans la lumière de l'amour divin, et plus on souffre de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Et plus on porte en souffrant, et plus en même temps on peut travailler à réaliser la paix et la réconciliation. Comment ? Et précisément par la puissance de cet amour. C'est un amour, comme dirait Benoît XVI, qui assume le péché et qui le consume. Qui assume et consume. On ne peut pas évidemment assumer le péché de quelqu'un qu'on ne veut pas voir, avec lequel on ne veut pas rentrer en contact parce qu'on fuit la souffrance inévitable. Mais si on accepte de rentrer dans la logique de la croix, à ce moment-là, l'essentiel du travail de la communion est un travail d'enfantement, un travail d'accouchement. Saint Paul qui dit à un moment aux Galates qui se sont éloignés du Christ, je vous porte dans les douleurs, je vous enfante à nouveau dans la douleur. C'est-à-dire en réalité, on porte l'autre dans la prière, comme on dit, on porte dans la prière, on porte dans la souffrance, dans la supplication et dans la compassion, dans une compassion. La communion à la passion, Jésus. Et puis, on fait l'expérience que si on continue comme ça, qu'on persévère, de fait, il y a des situations qui arrivent à se dénouer, parce que dans le cœur de l'autre, il y a quelque chose qui se dénoue. Le pape, dans son dialogue, avec les supérieurs religieux, dit à un moment, les conflits communautaires sont inévitables. Dans un certain sens, ils doivent exister. Si une communauté vit vraiment des relations sincères et loyales, c'est la vie. Penser à une communauté sans frères qui vivent en difficulté n'a pas de sens, ne fait pas de bien. Si dans une communauté on ne souffre pas de conflits, ça veut dire qu'il manque quelque chose, il n'y a pas droit. Communauté, il n'y aurait pas de conflits, c'est une communauté, il n'y aurait pas de pécheurs qui se rencontrent. Il n'y a que des pécheurs isolés dans leur coin. Dans des îlots, ils ne se rencontrent jamais. Chacun dans sa bulle. Alors là, ça ne fait pas de bruit. Mais évidemment, ce n'est pas ça le chemin de la communion. Le chemin de la communion, c'est accepter de souffrir en contact avec l'autre. Les conflits qui font apparaître la réalité de chacun et qui sont le commencement d'une vraie rencontre, bien, laissent la place à ce travail dans lequel on va porter le conflit. Et on va travailler à le surpasser, à le surmonter, en passant par la logique de la croix. Alors après avoir dit qu'une vie sans conflit n'est pas une vie, oui, parce qu'il dit si le conflit doit être assumé, il ne doit pas être ignoré. Ignorer, c'est rester à la superficie des choses. Tout va bien. Oui, dans la communauté, mais tout va bien. Tout le monde s'entend bien. On ne se parle pas, mais tout va bien. On ne se dit pas les choses, on se critique par derrière. Mais sinon, bah, quand on se retrouve, bah, tout le monde se fait des sourires, il n'y a pas de problème. Donc retenez bien. S'il est occulté, ça crée une pression, et ensuite il explose. Évidemment, ça. Pas besoin d'avoir vécu trop longtemps sur Terre pour le comprendre. Mais il ne faut pas que ça explose, justement. Il faut que ça se consume. Il ne doit pas exploser, il doit être consumé. Consumé par le feu de la charité divine qui est dans le cœur de Jésus. Et nous réfugions dans le cœur de Jésus pour pouvoir porter nos frères et consumer ce qui est à l'origine du conflit. Alors, j'en viens à l'histoire que le pape François raconte. Il vient à l'esprit du pape l'histoire d'un jeune de 22 ans qui était en pleine crise dépressive. Alors sa mère était veuve et lavait le linge de famille aisée. Ce jeune n'allait plus travailler et vivait dans les brumes de l'alcool. Sa mère ne pouvait rien faire. Vous voyez, là, rien faire pour l'aider et même rien faire pour lui parler. Simplement, chaque matin, avant de sortir, elle le regardait avec beaucoup de tendresse. Tendresse, précisément, c'est l'amour-passion, l'amour qui cherche la communion. Là, la communion n'est pas vécue de manière effective. L'autre, il est dans sa bulle, complètement enfermé dans la désespérance. Puis la maman, elle le voit, son fils, dans l'alcool, là, en état d'alcoolisme, avancer tous les matins. Et la seule chose qu'elle puisse faire, c'est de regarder avec tendresse. À présent, ce jeune est une personne importante. Il a surmonté cette crise. Car ce regard plein de tendresse de sa mère, à la fin, l'a secoué. Voilà, il faut retrouver la tendresse, même une tendresse maternelle. Pensez par exemple à la tendresse que saint François a vécue. La tendresse aide à surmonter les conflits. Mais le pape François, là, il ne parle pas d'une tendresse affective, pleine de bons sentiments, mais restant au niveau d'une affectivité humaine. Il parle de la tendresse qui est dans les entrailles du Christ, qui nous est communiquée, une tendresse divine, pure, qui porte jusqu'au bout. Qui finit par libérer l'autre de son enfermement, de son péché. Oui, mais cette histoire très concrète me fait penser que parmi les choses lourdes à porter au quotidien, bon, il y a le cas de si vous vous sentez poussé à prier pour les plus criminels des islamistes, c'est peut-être un appel, mais au quotidien, vous ne les rencontrez pas, ces gens-là. Mais au quotidien, on rencontre, mais continuellement, des gens désespérés. C'est empêcher la désespérance. Et quelqu'un désespéré, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un désespéré, c'est lourd. Et si on s'approche de lui, si on s'approche de lui avec simplement nos armes humaines et nos bons sentiments humains, nos bonnes intentions humaines, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt lui qui nous entraîne dans la désespérance. Hein. C'est pour ça qu'on a tendance à fuir les gens en déprime, tout ça. On se protège. On vit dans un temps où chacun se protège de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il manque la charité qui est dans le cœur du Christ. Mais il faut accepter que ce soit lourd et non. Lourd à porter et non à porter. Qu'il n'y ait pas une victoire comme ça facile parce qu'on lui aura dit une belle parole, soudain on lui aura donné une raison de vivre, on lui dit, mais tu pourrais faire ça, mais tu dois pour ça. Bon, ça marche le fait d'un quart d'heure. Hein. On lui a remonté le moral, on a pris un café ensemble, c'était tout super. Va bien maintenant. Non. Non, quand il y a vraiment une tentation, un enfermement lourd, une chose de lourd, ça ne se fait pas comme ça, ça se fait dans le temps, ça se consume. Le feu, ça consume petit à petit. Vous jetez quelque chose dans le feu, ça ne fait pas d'un coup. Là, il faut tenir dans la durée. Il faut espérer pour l'autre. C'est pas facile d'espérer, justement, d'aimer. Là, il faut aimer en espérance. On peut vaincre la désespérance que par l'espérance. Porter dans l'espérance quelqu'un qui ne voit tout en noir et qui n'a plus aucune raison pour lui, ou plus aucune raison de vivre, et porter ça dans son cœur pendant des années, comme a fait ce moment. Et c'est ça, la croix. Ça, c'est le véritable amour. C'est pas de vouloir faire plein de choses alors que c'est pas possible. Vous voyez, en vous disant ça, je ressens que la charité se vit dans des choses très simples et dans une attitude de cœur d'abord que saint Paul qualifie en disant « Supportez-vous les uns les autres avec humilité, douceur et patience ». Trois vertus évangéliques, qui sont les trois vertus que Jésus a exercées dans sa passion, humilité, douceur et patience, dans le quotidien, dans la relation avec l'autre, qui fait qu'on aide Jésus à le libérer de son enfermement, de ce qui l'empêche d'entrer dans la communion avec le Christ et avec ses frères. Et vous voyez, dans des relations difficiles, souvent on peut éprouver de tels mal-être qu'on n'arrive pas à porter silencieusement l'autre dans l'impuissance, en acceptant jusqu'au bout l'impuissance. Et donc, on cherche encore à une sorte d'agitation, d'inquiétude dans un monsieur. Faire quelque chose pour lui quand même, faire quelque chose pour lui, et puis on est maladroit en fait. Et au lieu d'aider l'autre, en fait, c'est des coups dans l'eau. Il vaut mieux carrément accepter l'impuissance totale au niveau d'un faire pour l'autre, comme cette maman, elle était impuissante face à son enfant. Totalement impuissante, elle a accepté. Elle a tout parié sur l'amour lui-même. Qui est D'abord, ouverture, comme je le disais au début, ouverture de mon cœur, je donne l'hospitalité à l'autre dans mon cœur, je le porte. Silencieusement, dans la foi et l'espérance. Alors je termine par une image du pape François qui dit qu'il aime mieux une église qui sort et qui en sortant est accidentée qu'une église qui reste en circuit fermé dans un petit cocon douillet où on se retrouve entre bons chrétiens. Il dit ça et en même temps il est réaliste. Et dans sa rencontre avec les supérieurs de communautés religieuses, il leur dit c'est important donc d'aller aux périphéries, aux fameuses périphéries. Et notamment d'aller à la rencontre des esprits de la société. Mais il dit, le premier critère est celui d'envoyer dans ces situations d'exclusion et de marginalisation les personnes les meilleures, les plus adaptées. Il dit, il existe toujours le risque de se laisser prendre par l'enthousiasme, d'envoyer sur les frontières de l'exclusion des religieux de bonne volonté, mais qui ne sont pas adaptés à ces situations. Et ça, c'est un pape réaliste. Il ne dit pas, tout le monde sortait, tout le monde allait vers les pauvres, les plus pauvres, allez à la périphérie. Non, il ne dit pas ça, parce qu'il sait que plus on va loin dans les zones de désespérance, de vie désordonnée, et bien plus ça va être lourd en réalité à porter si on rentre dans le sérieux du combat et si on n'est pas simplement dans une sorte de générosité aveugle qui fait qu'on fait plein de choses mais qu'on ne va pas à la racine du mal. Et donc il est revenu là-dessus plusieurs fois, en fait. Il dit, il faut envoyer les meilleurs. Il dit, il faut beaucoup de courage, patience. Donc, préfère une église qui sort et qui a des accidents, qui, comme une voiture qui sort, elle prend le risque d'accident. C'est sûr que quand on sort vers les autres, on va à la rencontre des autres, ben, forcément, il y a des moments où on réagit mal. À la rencontre, on peut blesser l'autre, se blesser soi-même, et avoir des accidents. Il faut savoir prendre des risques dans la recherche de la communion, mais il ne faut pas non plus surestimer ses forces. Et si on est dans un esprit d'obéissance, on saura discerner ce que l'on peut faire et ce qui est trop lourd pour nous. Sans céder à la peur et à côté de vouloir à tout prix se protéger parce que. Voilà, je ne veux pas rentrer plus dans les détails. Moi, je vois que j'ai fait plein de bêtises dans ma vie. J'étais jeune prêtre, j'étais aumônier de la centre d'accueil pour les jeunes atteints du sida. La générosité aveugle, je sais ce que c'est. Vouloir sauver tout le monde, je sais ce que c'est. Je me suis passé par là. Je me suis calmé depuis. Mais le secret, c'est l'humilité toujours. Pas mon amour qui peut sauver l'autre. C'est pas mon savoir-faire qui peut sauver l'autre. C'est la charité qui est dans le cœur de Christ, réfugiée dans le cœur de Jésus, toujours d'abord. Et puis avec lui, me laisser conduire sur un chemin d'obéissance au Père. Restant collé à la volonté de Dieu, dans un discernement, dans une écoute aussi de mes supérieurs. Est-ce que c'est assez concret ce que je vous dis là? Est-ce qu'il y a des questions? Père Nicolas, il va me dire que j'ai déjà dépassé l'heure. Comme je ne sais pas combien de temps je peux parler, vous allez chercher le micro. Je me permets, en attendant que vous ayez le micro, de vous citer un passage de Saint Paul qui appelle à la prudence. Qu'est-ce que dit Saint Paul ? Ne formez pas d'attelages disparates avec des infidèles. C'est 2 Corinthiens 6, 14. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété ? Entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Béliard ? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle ? On peut être en communion qu'en Dieu. Donc il ne faut pas rechercher une communion là où elle n'est pas possible. Par contre, on peut rechercher la compassion, de porter l'autre. Mais il ne faut pas rêver la communion là où elle n'est pas possible. Vous voyez ? Il faut accepter les limites. La communion, ça suppose la réciprocité. Ça suppose de pouvoir se retrouver dans un fond commun. Peut-être en définitive que notre attachement à Dieu, notre obéissance à Dieu.